Nous allons continuer ces méditations concernant les rencontres que le Seigneur a faites après la résurrection. Et ça a vraiment toute son importance, ces moments que le Seigneur a pris soin d'avoir avec les disciples, soit avec quelques-uns, soit avec l'ensemble des disciples, voire 500 frères à la fois, plus de 500 frères à la fois, voire personnellement, de manière intime, avec son propre frère, Jacques. Voilà. Et ces moments-là ont toute leur importance parce que ce sont des moments de nos vies. Ce que le Seigneur a fait pour eux et avec eux, il le fait pour nous et avec nous. Alors on en a vu que quelques-uns pour le moment, hein. C'est que on a vu que le premier jour de la rencontre, de la résurrection, pardon, c'est Jésus qui vint à leur rencontre pour dire à ces femmes: pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Voilà. Et je vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Et en annonçant ces paroles, le Seigneur est en train de faire la jonction spirituelle entre le ciel et la terre, entre lui et nous. Et ça, c'est quelque chose d'important. Nous avons vu, en deuxième temps, que ce même jour, sur le chemin d'Emmaüs, 12 kilomètres à peu près, 60 stades, il est allé cheminer avec deux d'entre eux, il fit route avec eux, et puis il s'entretient avec eux, et à la fin de cette journée, il leur ouvre l'esprit. Et c'est tellement important de laisser le Seigneur faire une œuvre dans ce domaine, dans notre vie, nous ouvrir l'esprit sur les choses de sa parole et de son œuvre. Voilà. Et puis, le troisième chose que nous avons vu, c'est le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, pour nous rappeler que le Seigneur est à l'initiative de tout dans nos vies. Il est le premier en toutes choses. Et il dira à la fin à Thomas, puisqu'il reviendra pour rencontrer Thomas 8 jours après, et on avait un petit peu intitulé ce message « Pour tous les Thomas de la terre, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Et maintenant, nous allons dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Personnellement, je me suis fait vraiment beaucoup de bien en préparant ce message hier soir, et puis pour terminer ce matin. C'est vrai pour les autres, mais celui-là, c'est comme si je voyais un tableau, mais je suis mauvais en dessin, très mauvais. Si quelqu'un était doué, faites-le. Ils sont dans la barque, à 100 mètres du bord, 200 coudées, et Jésus est sur le rivage. Et ça peut être le tableau de nos vies. Nous sommes dans notre bateau, au milieu du lac, ou bien engagés dans la vie, et le Seigneur, il est toujours au bord de nos vies. Il est sur le rivage de nos vies. Et quand on regarde le détail des choses, non seulement il est là, mais il a tout préparé pour le moment où ils seront dans le besoin. Et ça, c'est un tableau magnifique. Il est sur le rivage de nos vies et il a déjà tout préparé pour le moment où nous allons nous retrouver dans le besoin, quel qu'il soit, puisque le Seigneur est capable de répondre à tout ce qui nous arrive. Alors, on va au chapitre 21 de l'évangile de Jean. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, donc Jacques et Jean, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit: « Je vais pêcher ». Ils lui dirent: « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent, montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: « « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils lui répondirent non. Il leur dit: « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur !» Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement, sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit: « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander: « Qui es-tu ? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Jésus se montra encore à ses disciples. Voilà. Il ne se montre pas au monde qui le provoque. Ses frères l'avaient provoqué. Si quelqu'un veut paraître, alors monte à Jérusalem. Et il ne répond pas à la provocation. Par contre, le Seigneur se montre en toute discrétion à ses disciples parce que il veut avoir avec nous une relation privilégiée. C'est la réalité de notre relation avec lui. Il pourrait être inaccessible et ce n'est pas le cas. Il se tient près de nous, mais parfois on a du mal à réaliser qu'il est là. Le monde demande à voir des miracles et le monde n'en verra pas. Mais chacun de ces enfants qui se trouvent dans le besoin sera secouru. C'est la réalité de la présence du Seigneur. Il se montre encore à eux. Voilà. Mais visuellement, ils ne le reconnaissent pas. Donc, le message, vraiment, on peut l'amener jusqu'à nous aujourd'hui. Le Seigneur est là. Ils l'ont connu, ils l'ont vu. Ils pressentent que c'est lui, mais visuellement, ils ne le reconnaissent pas. Et combien de fois dans nos situations, nous avons senti qu'il était là, mais visuellement, on ne le voyait pas. Mais la manière dont les choses se sont déroulées était la démonstration que il était là. Il maîtrisait, il dirigeait les choses. Ils savent à n'en pas douter que c'est le Seigneur, parce qu'il y a une action de l'Esprit dans leur cœur. Et c'est ce que le Seigneur veut avoir avec nous en permanence, même quand nous sommes dans nos occupations séculières, ils sont allés travailler toute la nuit, mais il y a une action de l'Esprit dans leur cœur. Si nous sommes ouverts à Dieu, il y aura toujours une action de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Même quand on est en train de travailler toute la nuit pour essayer de prendre des poissons, il n'y a rien de directement relié entre ce qu'ils font et un temps de prière. Il n'y a pas de jonction immédiate entre ce qu'ils font et la maison de Dieu. Mais comme c'était encore rappelé ce matin, le Seigneur est là et il est avec nous quand on est ailleurs. C'était le cas pour eux. Ce sont des disciples, et ils sont ensemble. Alors, j'avais pas compté, mais il y a Pierre, Thomas, Didyme, Nathanaël, les deux fils de Zébédée, et deux autres. Donc, ils sont huit. Des disciples ensemble. Ça, c'est important, c'est une réalité d'ordre spirituel. On n'a pas vocation, avant le ciel, à être ensemble 24 heures sur 24. La parole de Dieu le dit dans le livre des Proverbes, mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Donc 24 heures sur 24, nous le serons dans le ciel. Néanmoins, on peut quand même être ensemble avec quelques-uns, parce que on a vocation à être ensemble. Et cet ensemble, Dieu est en train de le construire, et quand il aura terminé de le construire, il n'y aura qu'un ensemble. Aujourd'hui, il y a des églises partout, de par le monde, et dans l'histoire, elles se sont toutes succédées les unes après les autres, et nous allons vers un ensemble unique final lorsque nous serons dans le ciel. Et jusque-là, eh bien, le Seigneur est venu nous chercher dans notre isolement pour être avec nous. À partir de là, on n'est déjà plus seul, et pour être aussi avec les autres. On n'a pas vocation à rester tout seul. C'est une réalité spirituelle. Nous avons des frères et sœurs. Et s'ils étaient ensemble, ceux-là, c'est que peut-être ils s'entendaient particulièrement bien. Et ça, c'est extraordinaire, de rencontrer des frères et sœurs avec lesquels vous avez des affinités. En plus, ils ont le même métier pour la plupart. Voilà. Et c'est une réalité spirituelle, nous avons des frères et sœurs. C'est une réalité spirituelle, nous avons besoin des autres. Et ils vont nous aider. À différents moments de notre vie, ils vont nous aider. Parce qu'ils voient bien la situation dans laquelle se trouve Pierre qui dit « Je vais pêcher, on vient avec toi ». Ils ont compris que Pierre a besoin d'aide. Ils ne le manifestent pas avec des mots, mais comme ils se connaissent et qu'ils sont amis, ils ont compris le message et on vient t'aider. Et puis de toute façon, c'est une réalité pratique aussi. On ne peut pas gérer tout seul un bateau de pêche. On peut gérer tout seul un canoë-kayak. Et encore, quand on se retourne, de temps en temps, c'est compliqué. Mais on n'a pas vocation. On ne peut pas gérer tout seul un bateau de pêche. Notre vie, c'est un vrai bateau. Il y a tant de choses à faire à partir de notre vie, et pratiquement on ne peut pas gérer notre vie tout seul, ce qui va complètement contre la philosophie de ce monde qui cultive la personnalité, l'individualisme, moi. Mais moi tout seul, je n'y arrive pas. je n'y arriverai pas. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin des autres. C'est une réalité spirituelle aussi. À la différence, celui qui reste seul cherche ce qui lui plaît, dit la parole de Dieu. Alors, je vais me permettre de lire un récit du livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4, sur ce point-là. Ecclésiaste, chapitre 4, un récit connu, hein. Parfois, on le réduit au couple. Je ne pense pas qu'on puisse le réduire uniquement au couple. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, à moins de travailler avec son conjoint, ce n'est pas uniquement ramené au couple. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, alors là, d'accord, on est dans le couple, le cadre du couple, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et puis le Seigneur vient là au milieu, et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Donc, on a vocation à être ensemble, au moins à deux, peut-être à trois. Dans cette situation, finalement, eux se retrouvent à huit. Et une brebis seule, c'est pas normal, elle est perdue. Les brebis, c'est le troupeau, d'office. Dès que vous trouvez une brebis seule, il y a une anomalie, elle s'est perdue. Ils sont sur l'eau, Jésus est sur le rivage. Et ça, c'est la réalité de la présence du Seigneur dans nos vies. Il n'est pas en permanence en train de tout dire, de tout décider, de tout diriger. Il n'est pas à la barre du bateau, mais il est juste à côté. Et dans nos vies, c'est comme cela, la vie spirituelle que nous menons avec le Seigneur. Il ne nous demande pas de disparaître, et c'est lui qui fait tout, qui dirige tout, parce que ce serait incompatible avec toutes les capacités qu'il nous a données. Il nous a donné des capacités de compréhension, de décision, de liberté, et le fait de donner notre cœur au Seigneur viendrait complètement annuler tout cela. Non, ça c'est une fausse conception de la vie spirituelle. Bien au contraire, le Seigneur veut nous donner toute notre liberté, mais il veut que nous la gérions avec lui à côté. Ils sont sur l'eau, ils sont dans la barque. Je ne dirais pas la galère, mais ça s'est transformé finalement en galère, cette situation. Et Jésus est sur le rivage, et il est avec eux. Il est juste à côté d'eux. Il les a dans l'axe de vision. Il pose ses regards sur nos vies. De temps en temps, on se demande où est le Seigneur. Nous, on est en pleine nuit, on ne voit pas trop clair sur le rivage, mais dès que le jour se lève, il est là. Ça veut dire qu'il y était avant. Il n'est pas arrivé simplement au moment où je commence un petit peu à voir plus clair. Il est là tous les jours. Et en plus, il ne dort ni ne sommeille. Et puis surtout, il anticipe le moindre de nos besoins à l'instant T. Il est prêt. Vous n'êtes pas arrivé d'avoir un problème de santé? Je prends cet exemple-là parce que, en général, cet exemple-là, c'est l'exemple de l'instant T. Ça va à peu près, puis d'un seul coup, vous êtes malade, l'enfant est malade, quelque chose ne va pas. Vous atterrissez à l'hôpital, en pleine période de vacances, où les agendas sont bousculés, etc. Et comme par hasard, l'agenda de l'hôpital a été modifié pour quelque raison que ce soit, et pour ce qui vous concerne, le plus qualifié, il est là, à l'instant T. Pour s'occuper de vous, pour prendre soin de vous. C'est sûr qu'il a fallu aller à l'hôpital. Seulement, le Seigneur gère l'instant T. Il gère les calendriers que nous, on a du mal à gérer. Il anticipe ce qui nous arrive, parce qu'on ne sait même pas en se levant le matin ce qui va peut-être nous arriver le soir, et qui prévoit en se levant le matin de finir aux urgences à l'hôpital, et là de réaliser eh bien, que le Seigneur, jusqu'au moindre détail, avait tout anticipé. Il est le Seigneur de l'instant T. Il sait que dans cette nuit, ils ne vont rien prendre. Ce n'est pas la première fois, ça aussi, il le sait. Mais il était là la première fois, alors à combien plus forte raison la deuxième fois. Et à l'instant T, au moment où ils sont dans le besoin, le Seigneur va répondre. Et il va le répondre d'une manière complète. Jetez le filet du côté droit de la barque, et je ne reviendrai pas sur cet exemple qu'on a déjà partagé plusieurs fois. Mais en même temps, lui, il a préparé les charbons allumés, le poisson et le pain dessus. Et il les bénit d'une manière globale et d'une manière complète. Vous allez réussir dans ce qui vous arrive. Et moi, j'ai prévu encore plus. C'est ça qui est extraordinaire. Et il leur dit, Enfant, n'avez-vous rien à manger ? C'est le Seigneur qui parle d'abord. En tout, il est le premier. Même dans la prière. Dans la prière, dans le besoin qui est le mien, dans la situation qui m'arrive, le Seigneur est le premier. Il parle d'abord. Et si je sais écouter, je vais réaliser qu'il y a tout dans sa parole. Enfant, n'avez-vous rien à manger ? Lisez entre les lignes. Il a bien vu que hier, il n'y avait rien à manger. C'est pour ça qu'ils sont allés pêcher cette nuit. Et non seulement il n'y avait rien à manger, mais il n'y avait rien en réserve. Donc il faut prendre au maximum. Et le Seigneur sait tout ça. Et il leur dit dans une petite phrase qui semblerait anodine, mais ce n'est surtout pas le cas. « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» Il sait qu'il n'y a rien. Il sait que c'est du nécessaire. Et il ne le leur dit pas pour les mettre plus mal à l'aise et enfoncer un petit peu le clou. Il est simplement en train de leur dire « Je savais. Je vous ai vu. » Il y a beaucoup de choses à faire dans ce monde, mais votre situation a de l'importance à mes yeux. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ne sont pas encore sauvés, il y a beaucoup de choses à faire après la résurrection, mais pourtant il est là. Il y a beaucoup de choses importantes à faire dans le monde, et moi je suis dans une situation qui ne relève pas du salut de l'âme, qui ne relève peut-être pas de la guérison du corps. Néanmoins, c'est une situation qui me pèse et qui pourrait devenir grave de conséquences. Il est là, il a vu. Il le sait, et il leur parle, et eux, ils vont répondre. Non. Mais c'est la prière. La prière, finalement, c'est quand je réponds au Seigneur. Et nous fonctionnons souvent à l'envers dans le domaine de la prière. Nous parlons au Seigneur, et nous lui demandons ensuite de répondre. Et d'ailleurs, nous allons même chercher la réponse. Alors, on tourne la parole pour chercher la réponse. On vient à l'église en disant « Seigneur, parle-moi au travers d'un don spirituel. » Mais mes frères et sœurs, on est dans un fonctionnement inversé. C'est lui qui a d'abord parlé. Et moi, je réponds. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Il savait le besoin précis. Il savait que ce jour-là, ça n'allait pas. À ce moment-là, et fait extraordinaire, il est là. Et eux répondent « Non. » Jetez le filet du côté droit de la barque. Et ça continue. La prière continue. Et vous trouverez. Et je ne vais pas vous ramener vers ce passage de Matthieu, cherchez, vous trouverez. Mais tout est relié. Le Seigneur parle peu, mais ce qu'il dit, c'est de la plus haute importance. C'est de la puissance. C'est la parole de Dieu. Si nous savons l'entendre et la mettre en pratique, la bénédiction sera là. Il n'y a pas eu un poisson de toute la nuit. Mais sur ta parole, j'ai déjà jeté le filet. Et maintenant, tu me dis du côté droit de la barque, je ne discute même pas. Je le fais. Et la bénédiction de Dieu, elle est là. Voilà. Et ils virent. Ils virent à ce moment-là sur le rivage des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et pourtant, le Seigneur leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Pourquoi ? Parce que la bénédiction de Dieu, elle est globale, elle est complète. Il me bénit dans ce que je suis en train de faire et il m'apporte ce que lui aussi en plus a prévu pour moi. C'est pour cela que moi je l'ai écrit de cette manière. Avec Dieu, on n'est jamais sur la base du minimum vital. Le minimum vital, c'est pas Dieu. Avec Dieu, on est sur du maximum, tout le temps. Tout le temps. Il crée le monde, c'est maximal, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Voilà. Il vient... Il y a de la foule qui a besoin de manger, il reste 12 paniers. Pourquoi ? On peut trouver toutes les explications du monde, mais l'explication pour moi la plus simple, c'est qu'avec Dieu, c'est comme ça. Il ne bénit jamais à minima, parce qu'il l'a dit, il fera au-delà de ce qu'on a pensé, demandé, imaginé. C'est pour cela que nous prenons toujours un risque extraordinaire d'être bénis quand nous lui disons à la fin de tout ce que nous avons demandé et que ta volonté soit faite. Il a tout prévu, tout est préparé déjà, mais il ne fait pas tout. Il a fallu qu'il jette le filet. Ça, c'est un principe spirituel. Il ne fait pas tout, et pourtant il a presque tout fait. Mais il me reste le geste de la foi. Cette femme qui va toucher le bord de son vêtement, il ne fait pas tout. Il est là, il est à portée de main. Il est celui qui a la puissance en lui de guérir, de délivrer, mais il ne fait pas tout. Il faut qu'elle touche le bord de son vêtement. Il est sur la croix, il est en train de vaincre le péché, de l'effacer, des dominations, les autorités, de les livrer publiquement en spectacle. Mais il ne fait pas tout. Il faut que le brigand dise « Souviens-toi de moi ». Voilà. Il est toujours là, mais il ne fera pas tout. Il me reste un geste. Il me reste un acte de foi à manifester. Avec le Seigneur, il y aura toujours le nécessaire et plus. C'est comme cela. Comme on le méditait vendredi soir, lui, il est vainqueur, et nous, il nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, plus que vainqueur. Parce que celui qui est vainqueur, il est vainqueur. Alors qu'est-ce que ça peut être, être plus que vainqueur? Ça veut dire qu'on va recevoir plus. Il va donner plus. À la croix du calvaire, il est vainqueur. Et comment, moi, puis-je être plus que vainqueur? Eh bien, je reçois à la croix le pardon de mes péchés, c'est sa victoire. Et je reçois encore plus, je reçois une vie nouvelle. À tel point que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Et c'est plus que vainqueur. À la croix du calvaire, le Seigneur est en train de faire une œuvre au plus profond des cœurs. Et quelques jours après, ça va se voir. Ses propres frères et sœurs vont se réunir. Ils vont se retrouver avec Marie en train de prier peu avant la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et son frère cadet va devenir l'apôtre Jacques. Il est vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs. Et toujours le Seigneur va rajouter à la situation dans laquelle nous sommes. C'est ça qui est extraordinaire. 153 grands poissons. C'est précis, donc ça a un sens. 153 grands poissons. Ce qui m'amène à dire, vous comprendrez, quelqu'un dira, mais c'est peut-être un peu facile, oui, mais néanmoins, c'est ça. Avec Dieu, tout est précis, au détail près. Même la pêche, elle est comptée. 153 grands poissons. Alors je me suis permis d'aller un peu plus loin, de me mettre à la place de Pierre. Pierre est père de famille, patron de pêche, etc. Donc il sait ce qu'il lui faut. Il ne part pas à la pêche pour attraper, non, j'allais dire des sardines, non, pas dans le lac, pour attraper des poissons, je ne sais pas lesquels, dans le lac de Tibériade. Il ne part pas pour en prendre 4 ou 5. Il sait ce qu'il lui faut pour manger. Il sait ce qu'il lui faut pour faire de la réserve. Il sait ce qu'il lui faut pour payer les factures. Il sait ce qu'il lui faut. Et je suis sûr que ces 153 grands poissons, à vous et à moi, ils ne nous disent pas grand-chose. Mais à lui, oui. C'est au-delà même de ce qu'il lui fallait. Il fallait nourrir la famille, il fallait payer les factures, il fallait de la marge, il fallait mettre de côté. Et les 153 grands poissons sont encore la démonstration que quand Dieu bénit, c'est au maximum 154, le filet se déchire. C'est marqué. Malgré le fait, le filet ne s'est pas déchiré, donc ça veut dire qu'un de plus, c'est peut-être que ça craquait, mais qui est donc la démonstration qu'il fera toujours au maximum de ce que je peux comprendre, de ce que je peux recevoir. Et ça, ça a été constant. La veuve a des dettes. Eh bien, va chercher les vases et remplissez les vases d'huile. Et quand il n'y en a plus, ben ça s'arrête. Ça ne s'est pas arrêté avant. C'est quand il n'y en a plus. Ça veut dire que c'est au maximum de ce qu'elle a pu réunir que la bénédiction de Dieu lui a été donnée. Mes frères et sœurs, est-ce que nous serions les décideurs, d'une certaine manière, de la dimension de grâce et de bénédiction que le Seigneur veut nous donner ou va nous donner? Parce que ce n'est pas lui qui dit stop, je ne veux pas, je ne peux pas t'en donner plus. C'est nous qui arrêtons. C'est nous qui arrêtons de demander, c'est nous qui arrêtons de prier. Moi, parfois, je fonctionne au minimum avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'entre le Seigneur et nous, parfois, il y a des problèmes. C'est que nous fonctionnons au minimum et lui fonctionne au maximum. Il y a un décalage énorme. Hein, il veut nous donner beaucoup et nous sommes parfois tellement humbles, et je le dis avec sérieux et respect, tellement humbles et petits que nous disons, Seigneur, non, moi, rien que ça, ça me suffit. Eh oui, mais du coup, vous accentuez l'écart entre le Seigneur qui veut donner beaucoup plus et vous qui dites, non, non, je veux que ça. Soyez plus ouverts dans la prière. Et dites-lui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, je voudrais que tu me remplisses de ton esprit, mais je ne voudrais pas parler en langue devant tout le monde. Et vous allez parler en langue chez vous, d'abord, c'est normal. Mais à un moment donné, ce que Dieu vous donne, c'est aussi pour son peuple. Alors dès le départ, ne posez pas les limites basses en disant « ce sera comme ça et pas autrement ». Voilà. Seigneur, je te prie de me permettre d'avoir un bon travail pour moi. et pourquoi pas pour moi et pour lui. Voilà. Seigneur, je te prie de me diriger afin de pouvoir fonder une famille et d'être heureux, oui, et que les autres aussi le soient au travers de cette famille que vous allez fonder. Seigneur, je voudrais un projet immobilier ou de maison. Eh bien, soyez large. Ne dites pas dans votre demande, voilà ce qu'il me faudrait. Laissez la fin de la lettre non écrite, de la demande non formulée avec trop de précision, de détails, qui fait que ça fait un peu l'entonnoir. Laissez le Seigneur répondre. Laissez le Seigneur donner. 153 grands poissons, la limite de la rupture du filet, c'est le maximum qu'ils pouvaient recevoir. Et le Seigneur leur a donné ça. Je suis sûr que si le filet avait pu en recevoir 250, il y aurait eu 250 grands poissons. Voilà. Néanmoins, c'est ce qui s'est passé. Et je termine, c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Et c'est ça qui me fait dire, il y a tellement de choses importantes, Seigneur, à faire. Surtout après la résurrection, surtout après la victoire que tu as remportée. Seulement parmi toutes ces choses importantes, Pierre est dans une situation où il a vraiment besoin que tu l'aides, et tu es là. Sur le bord du rivage, tu es là. Le premier jour de la résurrection, alors que tout le monde aurait eu tellement hâte de retourner dans la maison du Père là-haut, après ces 3 années passées ici-bas qui ont été difficiles, plus les 30 précédentes. Parce que dès le premier jour, qui a cru, qui a reconnu? Alors, quel parcours de vie sur cette terre? Au premier jour, qui a cru, qui a reconnu? Et quand au dernier jour, on se débarrasse de lui par la crucifixion. Donc, il pouvait y avoir une certaine hâte de rentrer dans la maison du Père là-haut et d'être célébré par les anges. C'est pas ce qu'il a fait. Premier jour de la résurrection, il vient vers nous. Il vient vers ces femmes qui pleurent. Il vient vers ses disciples sur le chemin d'Emmaüs qui se posent des questions, qui sont perturbés, troublés. Il vient rencontrer les disciples. Il manque Thomas. Il va revenir pour Thomas. Et puis, maintenant, c'est Pierre qui est dans une situation où le besoin se manifeste. Il est là avec Pierre. Il est sur le rivage de ma vie. Et ça, c'est une grâce. La première fois, il a prouvé son amour envers nous. Et depuis qu'il est ressuscité des morts, cela fait combien de fois qu'il est sur le bord du rivage de notre vie? Comptez les bienfaits de Dieu. Et vous verrez qu'il y a eu une première fois, mais que le dernier chiffre, il arrivera quand il nous prendra. Mais entre le premier et le dernier, je suis sûr qu'il va y en avoir. Autant que nous en aurons besoin, autant il agira. Alors on va terminer avec ce passage des lamentations de Jérémie. Non pas pour se lamenter, mais pour reprendre à notre compte les paroles de Jérémie, chapitre 3, et verset 19. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Que son nom soit béni. On va se recueillir quelques instants et à la suite, on va peut-être laisser chacun ou l'un ou l'autre dire au Seigneur, eh bien moi je suis dans ma barque, aide-moi, interviens, réponds au besoin qui est le mien.